Bonjour Estelle.
Bonjour. Mettre la pression sur les politiques, but des citoyens de la Convention pour le climat. Ils remettent leurs propositions au gouvernement tout à l'heure. Au moins 3 morts, 3 blessés graves au Royaume-Uni. Attaque au couteau dans un parc à l'ouest de Londres. La piste terroriste pas retenue par la police à ce stade. Pas foule pour la reprise de campagne de Donald Trump. Meeting à Tulsa et la gauche visée sans surprise. Rassemblement cet après-midi à Nantes, un an après la disparition de Steve pendant la fête de la musique. Le monde d'après, après le coronavirus, on en parle avec votre invité à 8h20, Eric.
Oui, Hubert Védrine pour son livre « Et après ?», point d'interrogation. Le livre sortira mercredi prochain, un essai sur l'après-Covid-19. Quelles leçons en tirer? Et vos questions à Hubert Védrine, 01 45 24 7000, c'est maintenant.
Et dans ce journal également, la réouverture des cinémas demain et une séance à minuit dans la Sarthe.
France Inter.
9 mois de discussion, remise des copies cet après-midi pour les 150 Français de la Convention citoyenne pour le climat. Proposition pour lutter contre le réchauffement de la planète. Ça va de la réduction de la vitesse sur autoroute à 110 km/h en passant par des taxes plus lourdes sur l'alimentation ultra transformée. 149 mesures adoptées, une seule retoquée. Proposition présentée tout à l'heure à la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne. Et l'idée désormais, c'est Célia Kiré, des membres de cette commission, c'est d'inciter le gouvernement à aller plus loin dans les lois à venir.
Le plastique à usage unique, les citoyens veulent le supprimer dès 2030, 10 ans plus tôt que le gouvernement. Ils veulent 50% de pesticides en moins dès 2025, avec des aides pour les agriculteurs. Là où le gouvernement peine à sortir du glyphosate pour l'achat d'une voiture plus propre, ils proposent un bonus écologique plus élevé à 9 000 euros. Mélanie est une citoyenne très engagée.
Là, ce qu'on veut, c'est clairement aller plus loin et plus fort que les propositions qui sont peut-être déjà sur la table ou des lois qui existent déjà par rapport à la rénovation énergétique, par rapport à l'utilisation et au recyclage du plastique, par rapport à notre manière aussi de se déplacer. Il va falloir que tout le monde s'empare de ce débat dans la société et que les politiques fassent preuve de beaucoup de courage pour mettre en place ces mesures.
Et les citoyens veulent mettre encore plus la priorité sur la justice sociale. Exemple, pour rénover les logements, Jean-Pierre estime que les ménages devront être aidés davantage que prévu.
On a travaillé sur 2 sujets. Le premier, ce sont les aides financières, en définissant des classes modestes, moyennes. Et le deuxième point, c'est par rapport aux locataires. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que certains logements qui sont plutôt délabrés soient dans l'obligation d'être rénovés. Nous, on l'impose.
Les citoyens espèrent surtout que le président Macron, qui les rencontrera le 29 juin, tiendra compte de leurs propositions pour dessiner ce nouveau chemin promis pour la fin du quinquennat.
Et avant de présenter leurs mesures à la ministre de la Transition écologique, les citoyens se prononcent sur les mesures à intégrer dans un référendum. À ce sujet d'ailleurs, Elisabeth Borne, dans le journal du dimanche, répète qu'elle est favorable à titre personnel. Dernier jour de travail de la Convention citoyenne, une semaine avant le second tour des municipales où les écologistes pourraient remporter plusieurs grandes villes, c'est dire l'enjeu de ces travaux. Le scrutin lui concerne 5000 communes et si vous ne pouvez pas voter, eh bien une procuration est possible. D'ailleurs, dans les EHPAD, les directeurs, comme lors du premier tour, sont en train de recueillir celles des résidents. Reportage à Phalsbourg en Moselle, Victor Vasseur.
Assise sur sa chaise roulante, Yvette, 89 ans, ouvre grand les yeux quand on lui parle des élections.
J'ai toujours voté depuis mes 18 ans. Je n'ai pas manqué à une seule élection.
Yvette a donné procuration à sa fille lors du premier tour. Pas besoin de recommencer. Elle l'affirme, si elle le pouvait, elle irait voter le 28 juin à Phalsbourg.
J'aimerais bien. C'était toujours une bonne ambiance. Alors que là, maison de retraite, nous sommes encore confinés pour le moment.
Mais les résidents sont-ils suffisamment informés sur ce second tour concernant les candidats, leurs programmes? Anne-Charlotte Elmerich en doute, elle est la directrice de l'EHPAD Les Oliviers.
On n'a pas eu beaucoup de communication aussi sur le second tour, c'est assez flou, les résidents en plus sont très très peu informés. Il y a eu plusieurs candidats au premier tour et puis à ce jour, je ne suis pas certaine qu'ils connaissent l'ensemble des listes qui se représentent au second tour. Quoi.
Sur les 56 résidents, seulement 5 ont donné procuration à l'un de leurs proches, pour le moment, car de nouveaux retraités sont arrivés ces dernières semaines et ils peuvent encore demander une procuration.
Un reportage signé Victor Vasseur.
Au Royaume-Uni, une attaque au couteau hier soir à l'ouest de Londres.
Au moins 3 morts, 3 blessés graves dans un parc de Reading, 60 km de la capitale. Un homme de 25 ans arrêté sur les lieux est en garde à vue. Attaque a priori sans lien avec la manif du mouvement antiraciste Black Lives Matter qui a lieu quelques heures auparavant. La police, elle reste très prudente et ne retient pas pour le moment, Antoine Gignot, la piste terroriste.
Pas question de parler d'attentat pour l'instant, mais nous gardons l'esprit ouvert, expliquent les hommes de la Thames Valley Police qui travaillent depuis hier soir avec la brigade antiterroriste pour tenter de comprendre les motivations de l'assaillant. Un homme de 25 ans a passé la nuit en garde à vue, un ressortissant libyen, affirment plusieurs journaux britanniques, qui aurait agi seul en poignardant au cou et à hauteur des côtes plusieurs promeneurs qui se trouvaient sur les pelouses de Forbury Gardens, faisant 3 morts et 3 blessés. Attaque aléatoire, précisent des témoins interrogés par les médias locaux. Au gouvernement, Boris Johnson, le Premier ministre, salue l'intervention des services d'urgence. Plusieurs ministres adressent leurs pensées aux proches des victimes et demandent aux Britanniques d'arrêter de partager des images choquantes filmées hier soir. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
2 heures de discours assez décousus et pas le retour en fanfare qu'il espérait devant plusieurs rangées de sièges vides à Tulsa, Oklahoma. Donald Trump a renoué avec les meetings de campagne, le premier depuis la crise du coronavirus, et c'est en plein mouvement également contre le racisme et les violences policières. Le républicain y a d'ailleurs fait allusion dans son discours en égratignant au passage la gauche et son rival démocrate Joe Biden.
La gauche, hors de contrôle, essaye de vandaliser notre histoire et salir nos magnifiques monuments. Ils veulent déboulonner nos statues et punir, annuler et persécuter tous ceux qui ne se plient pas à leurs demandes pour prendre le contrôle absolu. Cette cruelle campagne de censure et d'exclusion viole tout ce qui nous est cher en tant qu'Américains. Ils veulent détruire notre héritage pour imposer leur régime d'oppression. En plus, ils veulent couper les financements de la police et la démanteler. Rendez-vous compte.
Des propos recueillis par Loïc Piala, envoyé spécial de France Inter à Tulsa. Et le mouvement Black Lives Matter, qui a fait suite à la mort à Minneapolis de George Floyd, a également un écho en Suisse, où des milliers de personnes ont manifesté sur des pancartes dans les cortèges. Un nom est apparu à côté de celui de Floyd, Mike Ben Peter, un Nigérian mort après un contrôle de police en 2018 à Lausanne. Jérémy Lanche.
Le George Floyd suisse, c'est le terme retenu depuis quelques semaines par les médias pour parler de Mike Ben Peter, un terme loin d'être usurpé pour l'avocat de sa famille, Simon Enta.
C'est un cas qui connaît de nombreuses similitudes avec le cas de George Floyd. C'est une personne qui a été contrôlée par la police, qui a été violenté par la police, et ensuite on a exercé une pression importante sur son dos pendant de nombreuses minutes jusqu'à ce qu'il décède.
Impossible pourtant pour les experts légistes d'affirmer que le plaquage ventral de Mike Ben Peter a provoqué son décès. D'après eux, il serait mort à cause de plusieurs facteurs dont le stress, l'obésité et des problèmes cardiaques. Simon Enta n'y croit pas, d'autant que plusieurs affaires similaires ont eu lieu en Suisse ces dernières années.
Vous avez 3 Africains décédés en 3 ans, victimes de violences policières. On peut en tirer le constat qu'on veut. Je ne pense pas qu'il y ait un racisme institutionnel. Et là, il y a peut-être une différence avec la situation américaine. Mais par contre, il me semble établi qu'il y a des personnes racistes au sein de la police, en Suisse comme ailleurs d'ailleurs.
Le procès des 6 policiers toujours en service qui ont arrêté Mike Ben Peter pourrait avoir lieu avant la fin de l'année. Ils sont pour le moment prévenus d'homicide involontaire. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Manifestation contre les violences policières en France également. Et c'est dans ce contexte particulier qu'un rassemblement aura lieu cet après-midi en hommage à Steve Maya Canisso.
Oui, ce jeune homme de 24 ans disparu il y a 1 an après une intervention policière sur les quais de Loire à Nantes à l'occasion de la fête de la musique. Son corps retrouvé 1 mois plus tard, opération controversée à des forces de l'ordre car à coup de gaz lacrymo pour disperser la foule sur un quai sans parapet. Une opération au cœur de l'enquête. On fait le point avec Ariane Grissel.
Discrète, la famille de Steve Maya Canisso se tient à l'écart des rassemblements actuels contre les violences commises par certains policiers, mais pour leur avocate, difficile de ne pas établir un lien, maître Cécile de Oliveira.
Pour mes clients, le lien qui peut être fait, c'est la difficulté pour l'institution policière d'accepter que l'on enquête d'une façon objective, neutre, rapide, sur ces moments de dérapage.
Les proches du jeune homme disent toutefois avoir confiance en la justice, espérer des suites dès cet été.
Ce que la famille de Steve Maya Canisso attend, c'est la mise en examen des policiers à l'origine de l'utilisation massive de gaz lacrymogène qui ont un lien direct avec la chute dans la Loire de Steve Maya Canisso.
Les amis du jeune homme organisent une marche silencieuse aujourd'hui pour rendre hommage à celui qu'ils décrivent comme
toujours avec le sourire, toujours rempli de musique.
Soline était une proche de Steve. De l'année écoulée, elle retient surtout ses dernières semaines de mobilisation.
La façon dont les gens commencent à ouvrir les yeux sur les violence policière. Et du coup, le cas de Steve ouvre les yeux sur le fait que les gens présents là-bas n'étaient pas tous du même univers, de la même famille. Et les gens commencent à comprendre que ça aurait pu être un fils, un ami.
Mais précise Soline, la marche d'aujourd'hui est dédiée à Steve uniquement à lui, sans aucun message politique.
Et sur fond de dénonciation de violence policière en France et fronde de syndicats de police, ces mots de Christophe Castaner dans une interview au Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de l'Intérieur assume de bousculer les choses et il souhaite rester ministre de l'Intérieur.
La crise du Covid à présent avec plus de 2 millions de cas en Amérique latine et aux Caraïbes.
Mais recensé depuis le début de l'épidémie, dont la moitié au Brésil, près de 50 000 morts. En France, 16 morts de plus en 24 heures, mais toujours une baisse du nombre de malades en réanimation. Nouvelle phase de déconfinement également à partir de demain. Les cinémas notamment vont pouvoir rouvrir, conditions sanitaires strictes évidemment, et certains ne veulent pas perdre une seule minute. À Mamers, dans la Sarthe, séance à minuit pour le Rex, Alice Cachaner.
C'est à 23h55 précisément que l'écran blanc reprendra vie, un moment que Sylvain Sellos, le programmateur et projectionniste du Rex, attend avec impatience.
À vrai dire, on avait vraiment hâte de retrouver le public. On avait vraiment envie que ce soit un événement. Ça va me faire vraiment chaud au cœur. En fait, c'est quelque chose qu'on attend tous, en fait. Tous ceux qui aiment le cinéma sur grand écran.
Sur le grand écran, les spectateurs pourront découvrir les images inédites d'un concert d'Aretha Franklin, Amazing Grace, un documentaire pas choisi au hasard pour cette soirée du 21 juin, nous explique le projectionniste.
Avec une fête de la musique qui était un peu différente cette année, c'était aussi le moyen pour nous de faire une proposition au public en proposant un film musical en fait.
Un public qui visiblement sera au rendez-vous malgré l'heure tardive. Nicole, une cinéphile de Mamers, ne manquera pas cette occasion de se faire une toile avec son mari.
Nous c'est bon, c'est réservé. C'est vrai qu'on est content que ça reparte. Hein. C'est un peu la vie normale qui va reprendre, on va dire. Revoir les fidèles du cinéma et puis passer un très bon moment, parce que nous, on est très fans de grand écran.
Le film sera diffusé dans la grande salle, mais seule la moitié des 200 fauteuils pourra être occupée afin de respecter les gestes barrières.
Alice Cachaner, France Bleu Maine.
Certains sports reprennent demain.
Sport collectif et amateur, les cyclistes, eux, s'entraînent déjà depuis quelques temps pour préparer le Tour de France, à partir du 29 août, ou encore la route d'Occitanie. Début août, première course à étapes du calendrier cycliste post-Covid-19. Simon Cardona est allé à la rencontre de Lilian Calmejane, vainqueur d'étapes sur le Tour d'Espagne et le Tour de France, et il a hâte de reprendre la compétition.
Sur les hauteurs d'Albi, Lilian Calmejane poursuit sa préparation depuis le déconfinement.
On a fait une petite sortie, on était 6. Bon, une petite sortie, je dis, mais j'ai quand même fait 130 km.
Il ne semble pas avoir été affecté par la crise sanitaire.
Moi, je suis satisfait de ma condition. Je prends beaucoup de plaisir sur le vélo. Donc ça veut dire que j'ai soif de m'entraîner, j'ai soif de compétition, j'ai envie d'être sur le vélo. Donc ça, c'est le plus important, d'avoir envie d'être sur le vélo.
En attendant de pouvoir rouler en groupe sur les routes de France, l'heure est au petit défi, comme cette escapade de 400 km en une journée.
C'est parti. Je me mets au chaud dans les roues un peu de mes deux anciens coéquipiers. Ils se sont levés aussi très tôt pour faire quelques bornes avec moi et m'accompagner dans ce défi.
Faire 400 km quand on a une bonne condition physique et tout, ça rien d'incroyable.
Non, mais savoir que votre corps a bien réagi.
Voilà, savoir que mon corps a bien réagi. Puis entre les courses, on n'a pas le temps de faire ce genre de road trip. Là, il y avait le temps pour ça, donc c'était chouette de le faire.
L'objectif de cette saison express, le Tour de France bien sûr, mais la concurrence va être rude, imagine le coureur de la formation Total Direct Energy.
Cette année, la saison elle a été très courte en début de saison, il n'y a eu que 2 mois, et qu'à la fin de saison, il ne restera que 2 mois. Eh ben, c'est 2 périodes où il faut être à 100% et il faut avoir une envie débordante. Et dans ce sens-là, le confinement, je pense, va rendre la fin de saison palpitante sur le Tour de France et sur les autres courses, parce que tous les coureurs auront le couteau entre les dents.
Avant la route d'Occitanie et le Tour de France, Lilian Calmejane et une partie de son équipe ont rendez-vous avec les sommets pyrénéens à Font-Romeu pour 3 semaines de stage en juillet.
Simon Cardona. Quelques notes de Come As You Are de Nirvana lors de l'enregistrement du concert Unplugged, c'était en 1993, puisque la guitare utilisée par Kurt Cobain a été vendue aux enchères hier à Beverly Hills. 6 millions de dollars, c'est un record pour une guitare. L'acheteur, un chef d'entreprise, a bel et bien l'intention de l'exposer. Et puis rappel en cette fête de la musique, journée spéciale sur Inter avec des concerts dès 11h ce matin, Pomme. Et puis ça sera à Louise Attaque, notamment dans l'après-midi.
À partir de 18h, Louise Attaque et Gaëtan Roussel en direct de la salle de l'Olympia à Paris.